Bonjour à chacun. Nous sommes le dimanche 24 mai 2020. Nous commencerons aujourd'hui par lire le discours de Salomon, le roi, lors de l'inauguration du premier temple de Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ. Je lis donc dans le premier livre des rois, au chapitre 8, les versets 22 à 30. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il tendit ses mains vers le ciel et dit « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. » Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite à mon père David lorsque tu as dit « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur le trône d'Israël, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en marchant devant moi, tout comme tu as marché devant moi. » Maintenant, qu'elle s'accomplisse donc, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit « c'est là que résidera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Veuille écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel. Écoute-les et pardonne-leur. » Et je vous rappelle cette dernière parole de Jésus, cette fois, à ses disciples, 10 jours avant la Pentecôte, dans le livre des Actes, au chapitre 1er. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, dit Jésus, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Ce dernier événement qu'on appelle l'ascension est assez particulier dans l'année liturgique. Jésus, après sa résurrection et ses apparitions à de multiples témoins, disparaît à nouveau 40 jours plus tard. Parti. On ne peut plus le voir. Il n'est plus là. Où est-il ? Est-il en haut dans le ciel? Mais alors qu'est-ce que le ciel? Jésus est assis à la droite de Dieu, nous dit-on. Mais c'est où? Où est Dieu? Où est le Christ? Sont-ils là-haut? Sont-ils dans ma vie? Autant de questions troublantes qui peuvent déclencher en nous le pressentiment de quelque chose de plus grand et de plus fort encore que nous ne saisissons pas toujours, mais qui est dû à cet événement de l'ascension de Jésus. Où est Dieu? Eh bien, cette question ne date pas d'aujourd'hui. En fait, elle revient de manière lancinante, accompagnée du désir de le rendre accessible, palpable presque, notamment en le localisant dans les lieux de culte, dans les églises. Plus qu'à l'époque où le religieux avait encore un grand impact sur les hommes, quand Dieu était un préalable nécessaire pour expliquer le cours des choses et pour donner un sens à ce qui était incompréhensible, la question de l'existence et de la présence de Dieu se pose. Où est Dieu? Je ne le vois pas. Et vous vous souvenez peut-être de cette parole attribuée au cosmonaute Gagarine, revenant de son voyage autour de la Terre, qui affirmait que Dieu n'existait pas car il ne l'avait pas rencontré. Où est Dieu? dès les premiers récits, et tout particulièrement dans l'expérience de Moïse et du peuple marchant au désert, on voit Dieu à côté de son serviteur et du peuple. À la sortie d'Égypte, il est dit que l'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Dieu a été leur guide et leur protecteur. Après l'épisode du veau d'or, lorsque Moïse prie l'Éternel d'accompagner son peuple, Dieu dit « Je marcherai moi-même avec toi et je te mènerai au repos. » Maintes fois, les récits bibliques témoignent de la présence de Dieu auprès des uns ou des autres. Dieu nous accompagne, il nous ouvre le chemin, il nous protège, il nous relève, il nous donne le souffle de vie et le courage de vivre et d'espérer. Il nous fait la grâce de sa présence. En fait, il est déjà avec nous, même avant que nous puissions le voir. Il s'engage avec nous, mais sans que nous puissions le retenir ou le figer dans une image ou une définition, car il est le Dieu vivant, le Dieu tout autre, et plus grand que tout ce que nous pouvons dire et comprendre, toujours ailleurs que là où nous voulons le cantonner. Mais ces réponses sont-elles suffisantes? Peut-on s'en satisfaire? Probablement pas si nous reconsidérons l'histoire de la relation du peuple de l'Alliance avec son Dieu. Le peuple d'Israël a besoin de voir, il a besoin de matérialiser sa relation à Dieu. Il a besoin d'un lieu saint, d'un repère qui lui dit « Dieu est là ». Il a besoin d'un endroit précis où il peut trouver Dieu, le rencontrer et l'adorer. Et c'est justement pour cette raison que le peuple se construit ce veau d'or que j'ai cité auparavant. Et c'est pour la même raison que, entrant en terre promise, le peuple recherche la proximité du dieu Baal représenté par des statues. Pour pouvoir croire, les hommes veulent voir, avoir des preuves tangibles de l'existence de Dieu. La même question est soulevée dans notre monde moderne. Dieu est devenu problématique pour beaucoup parce qu'il est insaisissable, il est invisible, il est silencieux. Aucune preuve matérielle de l'existence de Dieu ne peut être donnée, et cela suffit pour conclure que Dieu n'existe pas et n'est qu'un affreux mensonge pour des esprits faibles. Alors, où est Dieu? Où est notre Dieu? Face aux moqueries des adeptes d'autres divinités, face aux doutes et aux désirs de certains Israélites de se tourner vers d'autres divinités, le roi David, déjà, voulait construire un temple pour manifester la grandeur de l'Éternel. Mais ce sera son fils, le roi Salomon, qui fera construire ce temple, lieu de la présence de Dieu et de la rencontre des hommes avec lui. Un édifice magnifique, imposant, visible de loin. Mais au moment de l'inauguration de ce temple monumental, qualifié de « maison de l'Éternel », Salomon s'interroge. « Mais quoi ? » dit-il. « Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre ? Puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. » Salomon reconnaît donc que même le temple le plus grand et le plus beau ne pourra jamais dire qui est Dieu, car Dieu est au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer et en dire. Dieu est et demeure insaisissable pour l'homme. L'homme ne pourra jamais faire de Dieu sa chose, son idole, et tout ce qu'il pourra dire et faire pour symboliser Dieu sera toujours une réduction de Dieu, voire une trahison. Le discours de Salomon, prononcé lors de l'inauguration du temple, exprime cela avec force. « Ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Et le discours de Salomon se fait humble devant Dieu. « Toutefois, ajoute-t-il, Éternel, mon Dieu, sois attentif. à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi, ton serviteur. Veuille écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple, Israël, lorsqu'ils prieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel. Écoute-les et pardonne-leur. Alors Dieu ne se laisse ni saisir ni enfermer dans quoi que ce soit. Mais si Dieu, dans sa grandeur et sa liberté, est insaisissable pour l'homme, il se fait pourtant connaître dans sa parole par laquelle il s'engage aux côtés de l'homme et il se fait connaître aussi dans la réalisation de ses promesses de salut et de vie. Dieu est insaisissable, certes, mais le témoignage des Écritures et des croyants de tous les temps nous montre que l'homme peut faire constamment l'expérience de la présence et de la fidélité de Dieu dans sa vie. Ainsi, Moïse, qui voulait connaître le nom de Dieu et le voir face à face, ce qui est une façon de vouloir le saisir en quelque sorte, fera l'expérience de Dieu dans le buisson ardent ou dans le doux murmure, le doux frémissement du vent. Le peuple d'Israël, dans sa marche au désert, fera l'expérience de la présence de Dieu par la colonne de feu durant la nuit et par la nuée durant le jour. D'autres font l'expérience de Dieu dans les joies et les peines, les souffrances et les guérisons, les échecs et les victoires. Mais Dieu ne se laisse ni saisir ni enfermer dans quoi que ce soit par aucun homme. Il est et il reste toujours au-delà de ce que nous pouvons dire et même au-delà de l'expérience que nous pouvons faire, car Dieu est Dieu. Le Dieu vivant, et non une idole. C'est cela qu'exprime Salomon au moment de l'inauguration du temple. Il reconnaît la grandeur infinie de Dieu, grandeur qui s'exprime dans l'alliance et l'exigence de fidélité de l'homme, dans l'attention et la sollicitude, dans l'amour et le pardon pour l'homme et pour son peuple. Et si le temple de Salomon a sa raison d'être, ce n'est pas pour enfermer Dieu, mais pour offrir à l'homme un lieu particulier et mis à part où il peut faire l'expérience, de manière privilégiée, de la présence de ce Dieu insaisissable et pourtant si proche et tellement fidèle. Bien plus tard, selon le témoignage des évangiles, c'est en Jésus-Christ que l'amour de ce Dieu insaisissable est devenu palpable, audible et visible. Par Jésus-Christ, des hommes ont vécu des guérisons et des libérations. Ils ont reçu une nouvelle espérance et une nouvelle raison de vivre. Jésus-Christ a été la présence vivante, visible, de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Le centre de la foi des croyants a migré donc du temple de Jérusalem vers une personne, Jésus-Christ. Et nous ? Eh bien, nous qui nous situons aujourd'hui après l'événement de l'Ascension et qui n'avons pas cette chance de vivre dans la proximité physique de Jésus, nous pour qui ce Jésus est devenu aussi insaisissable que le Père, comment pouvons-nous aujourd'hui encore faire l'expérience de la présence de Dieu dans notre monde, dans notre vie? Aujourd'hui, comme hier, nous pouvons faire cette expérience, l'expérience de la fidélité de Dieu à ses promesses, l'expérience de son pardon, dans la mesure où nous le laissons entrer avec confiance dans notre vie. Nous pouvons être guéris de nos blessures et libérés de nos fautes, dans la mesure où nous nous laissons toucher par son amour et par sa grâce. Mais il faut ce pas décisif de notre part, par lequel nous lui ouvrons et offrons notre vie dans la prière et l'obéissance, comme un lieu où il peut habiter pour toujours. Salomon priait « Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi ton serviteur. » Daniel priait « Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté, pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu tend l'oreille et écoute. Néhémie priait, « Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. » La prière permet de nous rendre réceptifs et disponibles à Dieu pour son amour et son pardon, et nous permet de faire l'expérience concrète qu'aujourd'hui encore, Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il écoute nos prières et nos supplications. Dieu est insaisissable, invisible, impalpable, mais si nous lui faisons confiance et nous remettons humblement à lui, il nous fait toujours à nouveau la grâce de l'expérience de sa présence et de son amour, de sa fidélité et de son accompagnement, même et surtout lorsque nous avons parfois le sentiment d'être seuls, quand le doute cherche à s'installer dans notre vie et que se pose en nous la question « Où est Dieu ?» Dans le monde ? Dans ma vie ? Dieu est là. Il est à nos côtés. Il est à portée de cœur, encore et toujours, comme il le fut pour toute cette nuée de témoins qui nous ont précédés. Ne l'oublions pas, mais osons toujours à nouveau le pas de la foi par lequel nous nous plaçons entre les mains de Dieu et sous sa bénédiction. Amen.